Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du SEUM. Aujourd'hui, on est à Paris, au siège de ELV, avec Jérémy Crépel. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Bonjour Jérémy Crépel. Donc d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Vous êtes peu connu du grand public aujourd'hui et pourtant co-secrétaire national adjoint d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes enseignant en lycée professionnel de formation. Vous vous êtes engagé en politique depuis 2010. Vous êtes conseiller municipal à Lille et vous siégez dans le groupe d'opposition Lille Verte.
Vous êtes bien renseigné.
Aujourd'hui, avec vous, Jérémy, on va parler de ELV. On va parler un peu d'actualité politique. On va parler du congrès qui s'annonce chez ELV. Mais d'abord, on voulait parler un peu de vous. Parce que, comme le disait Marie, vous n'êtes pas forcément quelqu'un qu'on connaît très bien au niveau national. Et on voulait vous demander tout simplement qui vous êtes, Jérémy Crépel.
Qui je suis ? Je suis Jérémy Crépel. Je suis un nordiste, un vrai nordiste. C'est-à-dire que j'ai passé l'essentiel de ma vie à Lille ou dans la banlieue de Lille avec un père calaisien et une mère de Béthune, donc vous voyez. Avec deux exceptions, parce que comme je suis prof, j'ai été, comme tout prof, nommé au début en banlieue parisienne à Tremblay en France. Donc j'ai passé 2 ans, j'habitais à Aulnay-sous-Bois du coup. Et puis parce que à un moment, j'ai suivi ma conjointe au Soudan, à Khartoum. Elle était archéologue et finissait sa thèse là-bas, donc je l'ai suivie. Et moi, j'ai enseigné à l'école française pendant ce temps-là. Donc voilà, mais à ces deux exceptions près, effectivement, j'ai passé l'essentiel de ma vie dans le Nord. Je viens d'une famille ouvrière, engagée dans le syndicalisme. Mon père était secrétaire régional à la CFDT. Et mon grand-père était déjà à la CFTC, puis à la CFDT aussi. Moi-même, j'ai commencé ma vie en étant engagé syndicalement.
Oui, c'est ce qu'on voulait vous demander. Mmh. Quels sont les premiers combats ou les premières causes qui vous ont mobilisé dans votre engagement ?
C'est le syndicalisme. Comme tout jeune, j'ai fait des manifestations lycéennes. C'était en 91, je crois, ou 90. C'était contre un gouvernement socialiste. On réclamait plus d'argent pour l'éducation. Sinon, c'est oui, le syndicalisme enseignant, comme je suis prof en lycée professionnel. Et puis aussi, j'ai été militant au planning familial. Et à peu près à la même époque, ensuite, j'ai adhéré à Europe Écologie Les Verts. Enfin, c'était encore Les Verts, à la charnière. J'ai vécu les derniers mois des Verts.
Comment ça s'est transformé d'un engagement syndical en engagement politique? Et pourquoi à ELV?
Me suis toujours très concerné par la politique, mais j'avais pas forcément trouvé le chemin jusqu'à un parti politique. Et à un moment donné, je crois que c'est aussi mon passage en Afrique qui m'a définitivement fâché avec la société de consommation, parce que j'ai pu me rendre compte à quel point on n'avait pas besoin de tout ce qu'on avait dans nos armoires en France. Et puis, quand je suis rentré à un moment de ma vie, j'ai eu besoin de m'engager davantage. J'ai poussé la porte des Verts. En fait, ça faisait un moment que j'étais déjà allé à quelques réunions et il m'avait, du coup, un jour, j'ai reçu un mail en disant on fait un apéro d'accueil des nouveaux, mais si vous n'avez pas encore adhéré, mais que vous pensez le faire, venez, ce sera l'occasion.
Et c'était à Lille.
Mais c'était aussi la question un peu pourquoi passer à l'engagement politique. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes, par exemple, se mobilisent beaucoup au niveau associatif, parfois sur des causes féministes, sur les causes, les marches climat. Et en même temps, l'engagement, enfin vraiment prendre sa carte dans un parti, penser que la politique peut aujourd'hui changer le monde, c'est quelque chose qu'on sent un peu vaciller dans la société. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui, en fait, justement, vous a poussé, vous, à franchir ce pas de l'engagement politique? Pourquoi c'est nécessaire?
Moi, je crois qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des associatifs, on a besoin des syndicats et on a besoin aussi de politiques parce que la loi, c'est les politiques qui la font. Et à un moment donné, il y a des associatifs qui vous diront nous, on se bat tous les jours, mais en fait, ce qui manque, c'est l'action de l'État ou l'action d'une collectivité pour faire qu'on puisse avancer. Et donc, on a besoin de gens de tous les côtés. Moi, je me suis senti longtemps à l'aise dans le combat syndical. Et puis là, je me sens à l'aise dans le combat politique Voilà, il faut des gens qui s'engagent, donc je me suis engagé. Une autre partie de mon engagement, c'est l'engagement LGBT, parce que je fais partie de ces gens-là, comme dit la ministre. En fait, ce n'est pas neutre politiquement, puisque nos orientations sexuelles, finalement, sont politiques. C'est important je sais qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi c'est important l'orientation sexuelle de nos dirigeants? Non, en fait, c'est juste important de mener le combat pour l'égalité. Et le combat pour l'égalité, il passe par l'engagement aussi qu'il y ait des personnes LGBT dans le fait d'être out. Ne serait-ce que parce que moi, quand j'avais 12-13 ans, ça m'aurait tellement aidé, quand j'ai découvert que j'étais attiré par des garçons, d'avoir des références, des modèles, des personnes à qui m'identifier. Donc, c'est en même temps que mon engagement chez les Verts, finalement, que mon engagement LGBT s'est manifesté. Parce que j'ai adhéré chez les Verts en 2010, j'ai commencé à faire les Gay Pride en 2011-2012 avec les écolos. Et puis en 2013, on a mené le combat pour le mariage pour tous et on a fondé l'association Homo Vert, Homo Verte à Lille, justement au cœur de ce combat.
Est-ce que aujourd'hui ça représente encore un plafond de verre un peu de se dire je suis homosexuel, je pourrais pas avoir certains postes ou enfin est-ce que dans l'intériorité en fait de cette orientation sexuelle on se dit ça va être limitant
chez les écolos je ne crois pas. Mais les écolos, on a souvent parlé justement de la culture de minorité des écolos. Et le fait de faire partie d'une minorité de genre ou d'une minorité sexuelle, c'est peut-être quelque chose qui amène plus facilement chez les écolos, mais c'est aussi quelque chose qui fait que peut-être on a un peu plus de mal à se sentir légitime quand on brigue des fonctions. Et c'est pour ça que c'est important justement qu'il y ait des personnes qui soient en fonction, qui fassent leur outing.
On a deux petites questions pour finir de vous présenter. Les deux questions, je vous les pose en même temps. C'est qu'est-ce qui vous donne de l'espoir maintenant et qu'est-ce qui vous fout le plus le seum?
Ce qui me donne de l'espoir, c'est la jeunesse. Moi, je suis d'une génération désenchantée, comme disait Mylène Farmer, qui a vécu la chute du mur de Berlin et qui s'engageait plus, qui avait plus d'idéologie, qui était un peu dans le chacun pour soi et le libéralisme. Là, je vois qu'il y a des jeunes qui... Ça m'a fait vraiment énormément d'émotion quand j'ai vu les jeunes se mobiliser pour le climat et de voir les marches des jeunes avec des milliers de jeunes qui étaient capables de sortir dans la rue. Ça me donne vraiment énormément d'espoir. Ouais. Ce qui me fout le seum, c'est la montée de l'extrême droite en Europe et dans le monde globalement qui remet en cause les droits qu'on a difficilement acquis, les droits sexuels et reproductifs. Veulent mettre les étrangers dehors. Enfin, quand j'ai entendu, c'est extrêmement violent. La vidéo que j'ai vue là des gens d'extrême droite qui manifestaient à Lyon ce week-end, c'est pas possible en fait pour moi qu'on soit encore aujourd'hui dans ce monde-là.
Et qu'est-ce que ça vous fait que Macron aille rencontrer Mélanie parmi les premiers dirigeants?
Ça me fout le seum, mais à fond, parce que j'ai voté pour Macron pour faire barrage à l'extrême droite, et lui, il tend les mains à l'extrême droite, c'est pas possible.
Et que le FN vote la motion de censure de l'ANUPS?
Alors, franchement, ça, c'est insignifiant, parce que c'est une tactique du RN. On ne devrait pas s'en émouvoir. Par contre, ça me fout le seum. C'est quand le gouvernement essaye d'utiliser et de manipuler ça, alors qu'ils ont fait en sorte que le RN ait des vice-présidences à l'Assemblée.
Tu es aujourd'hui donc co-secrétaire national. Pour toi, en fait, que représentent les écologistes aujourd'hui dans la société? Comment sont-ils perçus par les Français?
Je pense qu'il y a des malentendus justement sur la place des écologistes. Pour moi, le mouvement politique d'avenir, c'est en fait, je dirais que c'est la gauche, parce que aujourd'hui, au XXIe siècle, le gradient gauche-droite, je pense que c'est l'écologie, comme ça a été la République au XIXe siècle et le socialisme au XXe siècle, la différenciation gauche-droite aujourd'hui, c'est l'écologie. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas encore compris, en fait, dans la société, qu'il y en a qui pensent que les écologistes, c'est des bobos, que les écologistes, ils sont peut-être pas de gauche, que c'est vraiment un malentendu fondamental. Et puis, après, je crois que les gens sont en train de se rendre compte quand même à quel point l'écologie, c'est une force de changement, et qu'il y en a à qui ça fait peur, parce qu'ils savent que leurs privilèges, ils seront remis en cause si l'écologie arrive au pouvoir. Et donc, c'est eux qui mettent toutes les stratégies médias en place pour essayer de diaboliser les écologistes. Malheureusement, parfois, ça marche, donc il faut qu'on s'arme pour faire face à ça.
À la fois, on a l'impression que les autres forces politiques du paysage au niveau national s'emparent beaucoup de l'écologie, communiquent sur l'écologie, annoncent des mesures qui peuvent paraître pour écologistes. Par exemple, on voit venir la loi sur les énergies renouvelables qui sera portée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous fait et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une victoire des écologistes ou est-ce que finalement c'est un peu un piège?
L'écologie, c'est un logiciel libre. Donc si on veut reprendre l'écologie, très bien, c'est parfait. Le problème, c'est de la reprendre vraiment. Et là, comme vous dites, on communique beaucoup sur l'écologie, mais on agit peu. Et c'est là où je dis le gradient gauche-droite, c'est l'écologie. Et donc, ceux qui sont vraiment pour la mise en place de l'écologie, c'est les écologistes. Et puis, il y en a d'autres qui veulent bien teinter leur programme d'un peu d'écologie. Mais en fait, l'écologie, c'est l'écologie. Quand on entend LREM parler d'écologie réaliste, si vous ajoutez un mot à l'écologie, en fait, vous lui faites perdre tout son sens. Et je parle pour tout le monde. C'est-à-dire que quand j'entends aussi la social-écologie ou l'éco-socialisme, c'est pas de l'écologie. Voilà.
Nous aussi, on met des mots derrière écologie. On dit écologie radicale, écologie pragmatique, même au sein du mouvement Europe Écologie Les Verts, on attribue des attributs justement au terme écologie.
Et l'écologie, c'est l'écologie. Et à mon avis, quand on rajoute des qualificatifs, on l'affaiblit.
C'est intéressant ce que vous dites parce que justement, vous avez pris vos fonctions de co-secrétaire national adjoint dans un contexte particulier. Suite à la démission de Julien Bayou, à un moment donné où on pouvait avoir l'impression que le parti, qui semblait connu pour son engagement féministe, se déchirait autour de cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là et qu'on donne l'impression, alors que, comme vous le dites, il y a probablement quelque chose en commun dans les écologistes, et qu'on donne l'impression que ce parti puisse se déchirer de façon aussi dure?
Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit aussi déchiré parce que le Conseil fédéral, le premier et puis le dernier que j'ai vécu à la tête de ce mouvement, quasiment tout a été voté à l'unanimité. Donc, et puis je me souviens aussi des écologistes tous debout pour applaudir le message du bureau exécutif. Donc non, je pense que les écologistes sont toujours unis. Et on est un parti féministe, effectivement. Et en fait, c'est parce qu'on est un parti féministe qu'on fait le travail sur les violences faites aux femmes, qu'on a une cellule d'enquête et de sanctions qui est complètement transparente, d'ailleurs, avec les noms de ses membres et tout son protocole sur le site d'Europe Écologie Les Verts. On peut aller voir que quand il se passe quelque chose et que quelqu'un est mis en cause, il se passe des choses. Et puis... il se trouve que les choses sont arrivées sur la voie publique et ça a provoqué la démission de notre secrétaire national. Et donc, on gère derrière. Mais il n'y a pas de division sur le féminisme, par exemple. Tout le monde, on est tous d'accord à Europe Écologie Les Verts sur la nécessité de combattre en faveur du féminisme et de combattre contre les violences faites aux femmes. Ça, il n'y a pas de sujet.
Alors, justement... est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ELV est le parti le plus engagé sur les questions féministes pour vous?
En fait, l'écologie, c'est une idéologie de l'émancipation. C'est-à-dire que si on veut, je ne dirais pas sauver la planète, mais si on veut vivre en harmonie avec le monde, et en fait, c'est ça l'objectif de l'écologie, il faut être en harmonie avec nous-mêmes. Et donc, il faut pouvoir... c'est la définition même de la liberté, être ce que nous sommes. Et donc l'écologie, ça vise à libérer aussi les êtres humains des barrières, des entraves qui font qu'ils ne peuvent pas être ce qu'ils sont. Et donc, dedans, il y a le combat féministe, il y a le combat aussi pour l'égalité des droits LGBT+. Il y a aussi le combat contre le racisme, c'est pour ça que la montée de l'extrême droite, ça me fout le seum, ouais. Il y a de comprendre que les frontières, bah, finalement, c'est très artificiel et que donc il faut accueillir les migrantes et les migrants. Et puis on peut tous être un jour migrants. Moi, mes grands-parents, ils ont dû fuir leur ferme parce qu'elle avait été bombardée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand ils sont revenus, il n'y en avait plus et ils se sont retrouvés dans un baraquement jusqu'à la fin de la guerre. Et bien alors, heureusement qu'on les a aidés et accueillis. Donc oui, il faut accueillir les migrantes et les migrants qui fuient les guerres, par exemple. Donc ça, c'est le côté émancipation. Il y a émancipation aussi, par exemple, quand on parle de tous les combats sur le droit à sur la fin de vie, sur le droit à disposer de nos corps, sur l'avortement, sur la contraception, même sur le changement de genre. Tout ça, c'est les écologistes sont en prise complètement dessus. Parce que c'est la possibilité de s'émanciper, de dire qui on est et de justement maîtriser nos vies, nos corps. Et ça, c'est un combat complètement écologiste qui rejoint aussi d'ailleurs le combat sur l'alimentation, sur les produits chimiques, etc.
C'est intéressant parce qu'en même temps, donc, on parle d'émancipation, donc de libération, d'entrave à être donc soi peut-être individuellement ou collectivement. Exactement. Et en même temps, les écologistes, souvent, on les considère comme ceux qui posent des limites, justement des limites à la consommation, des limites à nos modes de vie. On parle d'écologie punitive. Il y a aussi un sens presque, je ne sais pas si c'est moral chez les écologistes, mais de justement ce qui est bien, ce qui est mal, et de poser un cadre, de poser des limites pour qu'on puisse tous vivre, entre guillemets, de manière égale ou correcte. Enfin, il y a ce côté de partage en fait qui induit des limites. C'est ce qu'on...
Moi, je crois qu'en fait, c'est quand il n'y a pas d'écologie que c'est punitif. Parce que justement, parlons de la consommation. Est-ce qu'on est plus ou moins libre avec cette société de consommation qui nous donne des messages publicitaires pour créer des besoins qu'on n'avait pas au départ et nous inciter à consommer ? Est-ce qu'on est plus ou moins libre quand on nous intime de travailler plus pour gagner le plus et finalement de perdre notre vie à la gagner? Bah non, en fait, c'est pas la liberté, ça. La liberté, c'est d'avoir du temps aussi pour s'occuper de sa famille, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir vivre tout simplement, pour pouvoir lire un livre, pour pouvoir aller voir des spectacles. Et ça, eh ben justement, si on veut l'avoir, il faut aussi s'émanciper de la société de consommation, s'émanciper du travail, ça veut dire créer des libertés. L'écologie, ça ne fait que créer des libertés, en fait. Et par exemple, il y a un auteur qui avait beaucoup travaillé sur la voiture et montré à quel point la voiture, qui peut nous paraître quelque chose d'émancipateur, de donner de la liberté, d'aller individuellement, en fait, c'est une chaîne parce qu'elle a remoldé complètement nos territoires et que maintenant on n'a plus le choix, que nos commerces de proximité disparaissent, que finalement on est obligé de tous aller dans les mêmes centres commerciaux avec les mêmes entrées de ville qui sont tellement moches, avec le fait qu'on passe un temps considérable de notre vie à pouvoir payer notre voiture. Et je pense que là, avec l'augmentation des prix d'essence, c'est tellement démontré. Et ben finalement, la question, c'est qu'est-ce qui nous donne de la liberté ? Qu'est-ce qui, en fait, nous en retire en nous laissant croire qu'on en a ?
Ce que vous dénoncez, là, c'est ce qui a été perçu pendant longtemps comme le progrès, comme un progrès, comme un confort, ces centres commerciaux, cette voiture individuelle, ces maisons. Et du coup, ce jugement qu'on porte, en fait, sur justement ce que certains ont considéré comme des acquis et comme aussi quelque chose de travailler pour ça, pour avoir ça, pour avoir ces choses individuelles, ce capital. Comment, en fait, aujourd'hui, c'est acceptable dans la population pour tous ces gens qui en ont fait, en fait, leur rêve, entre guillemets?
Eh bien, en fait, moi, je fais partie de tout le monde. Hein, donc, pour moi aussi, quand j'avais 18 ans, le rêve, c'était d'avoir le permis, d'avoir une voiture, d'avoir une maison, un chien, une femme et des enfants. Et puis, finalement, la vie m'a montré que c'était peut-être pas là où j'allais m'épanouir le plus. Donc, juste ce que les écologistes remettent en question, c'est les idées reçues, les idées toutes faites que le bonheur, ce soit forcément l'accumulation de richesses. Non, en fait, on doit avoir des objectifs, que chacun puisse se loger, que chacun puisse se nourrir, que chacun puisse avoir accès à la santé, que chacun puisse vivre décemment. C'est ça, en fait, l'émancipation. C'est pas le fait d'accumuler des richesses. Alors, la question, et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que, en fait, il y a quand même quantité de gens dans notre société qui n'ont pas accès aux biens essentiels pour pouvoir vivre correctement. Mais c'est justement ceux qui font le haro sur l'écologie dans les médias qui, eux, sont ceux qui accumulent tellement de biens et de richesses qu'ils empêchent les autres d'accéder au minimum pour vivre décemment. Et nous, ce qu'on veut remettre en question, c'est cette répartition des richesses. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas besoin de produire toujours plus de richesses. Il faut juste mieux les répartir.
Une dernière question sur ce sujet, peut-être une question plus politique. On sent la force du projet écologiste que vous défendez au sein de LV. Et en même temps, qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui pensent être d'accord avec ce projet, mais qui ne se reconnaissent pas dans ELV, qui ont parfois l'impression que ces positions sont trop radicales ou trop clivantes et qu'elles ne collent pas avec la façon qu'ils ont de voir leur vie au quotidien?
Les débats ils peuvent avoir lieu. Et puis, j'ai envie de leur dire, venez. Et puis, discutons-en. Et puis, en fait, les écologistes, c'est des gens très pragmatiques et très ouverts. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont une vision de long terme sur le fait qu'il faut changer plein de choses pour que tout le monde puisse s'épanouir et être en harmonie avec le monde qu'ils sont forcément bloqués sur les chemins pour y parvenir. Donc, je pense que il y a moyen de discuter du moment qu'on partage le même objectif de vivre davantage en harmonie avec le monde et puis qu'on ne nie pas les difficultés là qui sont celles de la crise climatique, de la crise de la biodiversité. C'est angoissant et moi je comprends la jeunesse qui est angoissée de vivre dans ce monde-là et en même temps, moi ce qui me met le seum, c'est les gens qui veulent rien faire.
Pour commencer sur une nouvelle séquence, donc le congrès de ELV.
Le congrès de ELV.
Congrès cette année. pour beaucoup de personnes à l'extérieur, c'est pas forcément très clair. Donc un congrès est prévu en novembre et en décembre. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne sont pas familiers comment se passe ce congrès et aussi à quoi il sert?
Alors le congrès, ça sert à renouveler les équipes dirigeantes, par exemple. Il y a un truc qui est sans suspense dans ce congrès, c'est que moi, Jérémy Crépel, je ne ferai plus partie de la direction à la fin de ce congrès, puisque je ne suis pas candidat au renouvellement. Donc, renouveler les instances, c'est-à-dire le bureau exécutif, qui est la partie exécutive du parti, et le conseil fédéral, qui correspond plutôt au parlement du parti, et puis de nous donner une direction. C'est pour ça qu'il y a des textes, des motions d'orientation, qui disent sur quelle ligne les gens qui prétendent diriger le mouvement veulent le diriger.
Et c'est le mandat, etc. C'est sur combien de temps?
C'est un mandat de 3 ans pour le bureau exécutif et le conseil fédéral.
Donc c'est les motions d'orientation, donc c'est des orientations pour 3 ans. Hein.
Voilà. Et d'ailleurs, souvent, les équipes et les motions, les courants, on peut dire que les motions, c'est un peu des courants, se reforment en fonction des enjeux de chaque congrès et ne restent pas identiques.
Et du coup, justement, les enjeux de ce congrès, comment vous les résumeriez après une séquence qui a quand même été très chargée en élections, avec un bilan qui est un bilan en grande partie positif et aussi en partie contrasté? Comment vous résumeriez les enjeux de ce congrès?
Alors le bilan, nous on a dit des succès, un échec, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'élus écologistes qu'avant et des maires écologistes, donc le bilan n'est pas négatif, même si on n'a pas réussi à gagner la présidentielle. Et sinon, les enjeux, c'est il y a un enjeu stratégique, qu'est-ce qu'on veut faire avec la NUPES, ou est-ce qu'on veut faire sans la NUPES même? On peut se poser la question. La vraie question, c'est donc quels sont, d'ici 3 ans et au-delà, notre vision du développement de l'écologie et nos relations avec les partenaires de la gauche. Et puis, comment on veut développer le mouvement? Donc ça, c'est comment faire pour que l'écologie grandisse? Donc ça, c'est le deuxième enjeu. Et puis, troisième enjeu qui est plus organisationnel, comment on doit faire vivre la démocratie au sein de notre mouvement.
Vous êtes secrétaire national, co-secrétaire national adjoint avec Léa Balage. Qu'est-ce que c'est que d'être secrétaire national adjoint? Comment ça se passe et comment on tient ce rôle?
Justement, nous, on a été nommés secrétaire national adjoint tous les deux au mois de juillet en remplacement de secrétaire national adjoint qui avait été élu député. Notre mission, c'est clairement celle d'organiser le congrès et de faire en sorte que le congrès se passe bien, que même si c'est un moment de débat intense, ça déborde pas. Et donc notre rôle, c'est vraiment un rôle qui est de passation, en fait, et de montrer toute la neutralité possible, même si on a toujours tous nos idées, mais en tout cas dans l'organisation de ce congrès, et de mettre de l'huile dans les rouages pour que tout se passe au mieux.
De tenir le débat, mais de tenir l'unité aussi.
Voilà, tenir le débat, tenir l'unité. Donc ça demande beaucoup de souplesse et beaucoup d'efforts.
Et comme tu es co-secrétaire national adjoint, est-ce que tu peux nous résumer ou nous présenter les principales démarches qui ont été initiées en vue de ce congrès et les personnalités qui mènent ces démarches?
Il y en a six qui ont obtenu le nombre de signatures nécessaires pour pouvoir se présenter. Donc voilà, il y en a... Alors je vais aller dans l'ordre des signatures comme ça. Donc il y en a une qui est portée par Marine Tondelier, qui est un peu la suite, elle s'appelle. Donc je pense qui assume le bilan du bureau exécutif, qui se prononce pour une liste autonome aux européennes de l'écologie. Il y a une liste qui est portée par Sophie Buissière, qui est un peu plus distante de la NUPES que, il me semble, que la ligne de Marine Tondelier, qui est soutenue par Yannick Jadot. Donc ça peut permettre un peu de voir quelle ligne s'exprime.
Qui est au centre, dans l'intitulé.
C'est de mettre l'écologie au centre. Ça veut dire porter l'écologie en avant. Il n'y a personne de centriste à Europe Écologie Les Verts. L'écologie centriste, c'est Jean-Marc Governatori, qui avait fait partie de la primaire, mais qui n'est pas resté après. Voilà. L'écologie, c'est tellement une matrice de transformation que voilà, la transformation, le mouvement, c'est la gauche. Il n'y a pas d'écologiste de droite. Il y a des environnementalistes de droite, peut-être, mais pas des écologistes. Voilà, il y a une motion portée par Mélissa Camara qui rassemble des écoféministes et des gens qui se disent plutôt écologistes radicaux et qui est plus sur la motion la plus proche de la NUPES. Après, on a une motion portée par Claire Desmar qui veut développer davantage les territoires. On a une motion qui s'intitule « L'Arche » portée par Hélène Hardy qui veut développer davantage l'écologie. Et puis une liste portée par Géraldine Boyer, c'est développer l'écologie radicale dans les territoires.
Et voilà. Par rapport à ça, on voit que quand même il y a six motions. Mmh. Six motions qui représentent une diversité stratégique et quand même de vision de l'écologie. Et moi, je me permets d'insister un petit peu parce que vous disiez tout à l'heure, il y a une seule écologie et à la fois, on a l'impression d'un foisonnement très fort au sein de ELV et qui s'étend un peu même au-delà de ELV, puisqu'il y a des écologistes qui, en étant dans le pôle écologiste, sont quand même pas membres du parti et défendent aussi une autre vision de l'écologie. Est-ce que c'est pas un paradoxe ?
Moi, j'ai défendu le fait de faire un nouveau mouvement de l'écologie qui rassemble l'ensemble des mouvements du pôle écologiste. Donc voilà, je vais pas vous dire que c'est pas un paradoxe. Après, vous voyez comment j'ai du mal à définir les nuances. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des nuances, mais que sur l'essentiel du corpus écologiste, que l'écologie, c'est forcément quelque chose qui transforme radicalement la société et qui est forcément féministe et qui doit irriguer les territoires. En vrai, on est tous d'accord. Donc les nuances, elles sont plus stratégiques et sur comment développer notre mouvement que sur le positionnement idéologique. Il y a des nuances, mais elles sont faibles.
Est-ce que vous avez signé une motion, vous ?
Oui, j'ai signé une motion. J'ai signé la motion Printemps écologie, Printemps écolo. Sans être candidat, j'avais dit dès le début que je signerais une motion qui me semblait crédible pour porter l'ambition d'une écologie autonome et forte. Et ben voilà, c'est dans celle-là que je me reconnais.
Et c'est la motion que vous considériez tout à l'heure comme jadoïste, si j'ai bien compris. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire d'être jadoïste maintenant, après quand même un moment électoral où cette stratégie, disons, de crédibilisation de l'écologie et d'une écologie de gouvernement qui aussi est centrée sur ses fondamentaux en lien avec la question environnementale de façon importante, a quand même pas réussi à convaincre au premier tour. Je dirais pas que l'objectif était de gagner, mais disons qu'il n'y a pas eu les 5% même qui étaient nécessaires pour rembourser la candidature. Pourquoi aujourd'hui ce serait la ligne qu'il faudrait continuer de promouvoir au sein de LV?
Alors en fait, le sens, c'est de continuer de penser que l'écologie est centrale dans le débat politique au XXIe siècle et que même c'est elle qui configure le gradient gauche-droite, et donc de vouloir développer cette écologie pour qu'elle puisse grandir suffisamment et être en capacité effectivement d'arriver aux responsabilités.
Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui nous a manqué, en tout cas pendant la présidentielle ? C'est par rapport à la ligne existante, enfin, je veux dire, ou la ligne du parti. Yannick Jadot a été le candidat, mais ce n'était pas le secrétaire national du parti. Qu'est-ce qui a manqué, en fait, à la ligne courante ou actuelle pour incarner ça, pour peut-être construire ça et en fait avoir une candidature qui soit portée plus loin ?
Eh ben, un mouvement écologiste suffisamment large et fort pour pouvoir porter une candidature à la présidentielle. Et il nous reste à le construire. Avec les autres forces du pôle écologiste, en tout cas avec toutes celles et ceux qui voudront rejoindre l'écologie. Et je pense que le séisme de 2017 sur la configuration de l'échiquier politique n'est pas fini et que les reconfigurations ne sont pas terminées. Et que là encore, il va y avoir encore des mouvements d'ici la prochaine présidentielle.
Et vous disiez tout à l'heure que cette ligne-là était une ligne qui n'était pas forcément pro-NUPS, au sens où peut-être qu'elle prenait une prise de distance avec certaines des composants de la NUPS qui seraient sur peut-être d'autres créneaux plus productivistes ou plus classiques sur le plan politique. Finalement, est-ce que ce n'est pas quand même la NUPS qui a permis au groupe écologiste d'émerger? Est-ce que ça n'a pas été une façon d'affirmer l'écologie, de la présenter dans le paysage politique, de lui donner des élus, de lui donner une tribune? Et pourquoi il faudrait prendre les distances avec la NUPS alors que les électeurs, eux, ont vu finalement une continuité entre ces forces politiques?
En fait, la question, ce n'est pas tellement de revenir sur le passé ou sur est-ce qu'il faut prendre ses distances avec la NUPS ou pas. La NUPS, ça a été une alliance électorale pour les législatives, et elle a permis d'avoir un groupe écologiste à l'Assemblée qui est assez fort, qui est même encore plus important que celui qu'on avait pu avoir en 2012, et des groupes de gauche qui sont plus importants que s'il n'y avait pas eu d'alliance. Donc ça, pour le coup, ça a été plutôt productif. La question, c'est est-ce qu'il faut que l'écologie se fonde dans une sorte de superstructure de la gauche et des écologistes, en figeant en plus des rapports de force, puisque quand on fait de la politique, il y a toujours des rapports de force, ad vitam aeternam, sur ce qui a été quand même une image à un instant T, qui correspond même pas à une image de l'opinion, parce qu'on sait que sur la présidentielle, il y a tellement de votes utiles, parce qu'on vote pour un candidat qu'on pense qu'il peut gagner, et en fonction de sondages à une semaine des élections. Donc voilà, ce n'est pas forcément toujours un vote d'adhésion. Et donc c'est ça vraiment les questions. Et donc, est-ce qu'on pense que l'écologie, elle peut s'épanouir véritablement dans un cadre fermé de la NUPES tel qu'il existe actuellement, ou est-ce qu'elle doit avoir plus de liberté, prendre toute sa place? Et ça ne l'empêchera pas éventuellement de construire des alliances avec des partis de gauche.
C'est juste ça. Vous avez l'air de répondre à la question finalement.
Enfin, bah moi j'ai mon opinion.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qui est cette fermeture du cadre par la NUPES des écologistes? En quoi la NUPES nous limite aujourd'hui?
Alors elle nous limite si on reste figé sur un fonctionnement qui soit calqué sur que ce qui se passe au Parlement, qui soit calqué sur des modes de scrutin majoritaires des législatives et des présidentielles, alors que la prochaine élection, mis à part les sénatoriales, mais je crois qu'il n'intéresse pas beaucoup les Françaises et les Français, les européennes, c'est justement une élection proportionnelle qui permet à toute la palette de s'exprimer sans dommage, puisqu'il suffit de faire 5% pour avoir des élus. Voilà, c'est vraiment ça la question. Et puis, parce qu'il y a un logiciel écologiste qui ne se fond pas dans le logiciel ni socialiste, ni communiste, ni insoumis, qui doit pouvoir continuer à fonctionner, à proposer des idées, à proposer des initiatives. Bref, ce que je vous disais, c'est voilà, l'autonomie, l'émancipation, ça n'empêche pas d'être toujours en dialogue avec les autres. Mais il ne faut pas se mettre dans un cadre qui pourrait empêcher de prendre des initiatives et de continuer à faire vivre l'écologie.
C'est une belle phrase pour finir. Et on a toujours une dernière question qu'on pose à nos invités. C'est de nous partager une chanson qu'ils ont envie de faire écouter à nos auditeurs.
Alors, je vous propose « Résiste ». Chantée par France Gall et écrite par Michel Berger. Et vous allez me demander pourquoi, c'est ça? Parce que c'est une chanson d'émancipation. Si on t'organise un monde bien dirigé où tu t'oublieras vite, résiste. Suis ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste. C'est exactement, à mon avis, le chemin de l'écologie, c'est de résister au carcan que la société nous a imposé pour nous faire vivre dans un monde de société de consommation patriarcale duquel on peut s'émanciper en résistant.
Alors on écoute Résiste.
Merci Jérémy Crépel.
Merci.
Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste. Pour ça qu'on t'aime.